maintenant un bon bois de casse.
Maintenant un bon bois de casse. Maintenant un bon bois de casse.
Et bonjour à toutes et tous, c'est dans un petit cagibi que nous sommes. Donc c'est un plaisir de rencontrer Didier Delay. Didier, bonjour.
Bonjour.
Alors, on est en plein démarrage du Salon de Essen. Didier Delay, ton nom est plus connu par rapport à une publication, magazine spécialisé dans le jeu de société, mais tu es ici à Essen non pas pour écrire des articles cette fois-ci, mais pour présenter le jeu de ta société d'édition. Est-ce qu'on peut repasser sur le côté de plateau à Sit Down, qui est donc le nom de ta société d'édition ?
Depuis le début, c'est-à-dire à peu près en 2005-2006, j'avais toujours dans l'idée d'éditer des jeux, mais c'est un milieu que je ne connaissais pas. Par contre, créer un magazine, lancer un magazine, je l'avais déjà fait, c'était déjà mon métier de par la photographie. Et donc je me suis orienté vers ça, toujours en gardant dans l'esprit qu'un jour j'aimerais éditer des jeux. Et donc toutes ces années m'ont permis de découvrir le milieu du jeu, de beaucoup discuter avec des éditeurs, de découvrir tout cela. Et j'en suis venu naturellement à choisir un jour d'essayer d'éditer un jeu. Et voilà, c'est ça qu'on a sorti Viracocha. Mais les deux choses sont clairement scindées, hein. Oui. On essaye de ne pas les mélanger.
C'est vraiment deux sociétés différentes, ça veut pas dire que maintenant tu fais des jeux. Donc il y a parfois une peur de parti pris par rapport à une approche presse et une approche éditeur de jeu, c'est ça que tu veux dire?
Bon, on essaye vraiment en effet de distinguer. Moi d'ailleurs je ne suis plus rédacteur en chef de plateau, je ne suis plus qu'éditeur, donc je gère l'aspect financier, je m'occupe de la mise en page, mais le contenu je n'ai plus aucune prise dessus. C'est Benoît Christen qui gère absolument tout. Donc la seule présence de Sit Down qu'il peut y avoir dans plateau, c'est occasionnellement une publicité. Il y a eu une news aussi, mais il n'y aura jamais de rédactionnel qui va dire si le jeu est bon, n'est pas bon. Ça, on ne veut absolument pas faire. On veut scinder les deux, quoi.
Donc tu l'as dit, le fait d'avoir rencontré le milieu ludique à travers l'écriture et la rédaction du magazine plateau, finalement, ça a confirmé ton envie de faire de l'édition de jeu. Quel a été le moment où tu t'es dit, oui, finalement, je ne me trompe pas, j'ai vraiment ça en moi, je me lance?
Mais il y a un moment où on s'est dit qu'on allait essayer de sortir un numéro spécial plateau avec des protos dedans, des jeux pas encore édités. Donc on a essayé de monter tout ça. Oui, finalement, ça ne s'est pas fait. Je garde dans l'esprit de le faire de toute façon. Mais c'est vraiment un manque de temps pour le moment avec toutes les activités que l'on a. Et on est tombé sur un jeu dans ceux qui nous a été proposé qui nous a beaucoup plu. Donc on a un peu travaillé ça, on a regardé la faisabilité au niveau de Ludofact, on a d'abord essayé de réaliser le jeu vraiment avec des sous-traitants locaux, et puis un peu par hasard on est tombé sur un contact chez Ludofact qui nous a dit qu'il voulait bien remettre un prix pour une quantité finalement très basse du jeu, donc là on a regardé, et puis tant qu'à faire, on a choisi de passer par eux pour être sûr d'avoir quelque chose de professionnel, plutôt que quelque chose qui aurait pu être plutôt bricolé avec des sous-traitants locaux. Et voilà, c'est comme ça qu'on en est arrivé à ça, mais c'est sûr que c'est le fait d'être en contact en permanence avec le milieu du jeu qui a fait qu'on s'est dit qu'il y avait une carte à jouer quelque part. Voilà, et on a voulu vraiment bien cibler sur les joueurs, je vais dire hardcore, mais c'est un peu exagéré par rapport à Viracocha, parce que c'est pas vraiment un jeu compliqué en soi, mais au niveau du look, au niveau du nombre de pages de règles, etc., c'est pas la famille qui va se tourner vers ce jeu-là, ça c'est clair. Quoi.
Alors justement, parlons-en, Viracocha, c'est quoi ce mécanisme? On voit des tuiles hexagonales et on voit des dés. On a l'impression effectivement qu'on est dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'il y a une réutilisation du dé mais d'une manière intelligente et pas hasardeuse. Et puis tu l'as dit, Core Gamers, parfois c'est souvent relié à des tuiles hexagonales, donc on est juste dedans.
À ce niveau-là, nous ce qu'on voulait, c'était vraiment avoir quelque chose déjà de modulable par rapport au jeu précédent, au prototype qui existait. On a demandé à l'auteur de réfléchir à une solution tout à fait modulable pour la richesse au niveau du jeu. Maintenant, on n'a pas choisi le matériel en se disant, voilà, ce type de matériel fait hardcore gamer. C'est naturellement qu'on en est venu à ce type de matériel. Le problème que l'on a un petit peu, enfin très léger problème, c'est que les gens quand ils voient des tuiles, quand ils voient des dés, ils pensent les colons de Catan souvent, et ils se disent tiens c'est les colons de Catan, et on doit dire non, ça n'a absolument rien à voir, oui c'est le même type de matériel qu'on voit les hexagones et les dés, mais finalement c'est totalement différent. Et c'est un jeu, je trouve, qui prend vraiment toute sa richesse à partir du troisième ou quatrième tour de jeu, parce que c'est là qu'on commence à avoir les cartes, à avoir les ressources nécessaires qui vont permettre de manipuler les dés, de réfléchir aux combinaisons, déplace-t-on des pions dans le jeu, fait-on entrer des autres plutôt. Voilà. Et c'est aussi un jeu qui a une courbe d'apprentissage. Ceux qui vont jouer une première fois, ils vont vite se faire battre en général par quelqu'un qui connaît le jeu. Une deuxième fois, sans doute aussi. Et après deux parties qu'on a pratiquées, là on comprend un peu mieux les mécanismes, les subtilités du jeu. Donc il n'est pas compliqué à la base du tout, mais il devient très riche quand on le connaît et qu'on peut manipuler.
Mais tu dis quand même que c'est au bout de quelques tours et pas quelques parties, donc ça veut dire qu'il reste accessible.
Oui, malgré tout, celui qui a déjà 2-3 parties derrière lui a un net avantage sur un joueur qui joue pour la première fois. Mais il reste tout à fait accessible. D'ailleurs ici, voilà, sur un salon, il s'explique en 15 minutes, on va dire, à tout casser. On reste un petit peu près des joueurs, un ou deux tours, le temps de voir qu'ils ont bien compris les mécanismes, et puis on peut les laisser jouer tout seul, et ça tourne très bien.
L'auteur, on n'en a pas parlé, c'est mal. Donc tu l'as rencontré à travers ses prototypes, c'est qui ?
C'est Henri Kermarec, breton de Bretagne, qu'on ne connaissait absolument pas avant de recevoir son prototype. Et il a fait 2-3 jeux dont j'oublie les noms, mais qu'il appelle lui-même des jeux bretonnants, qui étaient plutôt locaux dans sa région, et fait un petit peu en famille d'après ce que j'ai pu comprendre. Et Viracocha est son premier gros jeu, va-t-on dire, qui n'est pas fait en famille.
Alors justement, Viracocha, c'est quoi ? C'est quoi le pitch ? C'est quoi le but ? Comment est-ce que ça fonctionne ?
Donc le pitch, c'est qu'au début du 20e siècle, on a découvert en Amérique du Sud une vallée perdue, qu'on a appelé la vallée de Viracocha, parce qu'il y a très longtemps, il y avait un empereur qui s'appelait Viracocha qui régnait sur cette vallée. Et on est venu prévenir l'impératrice Victoria de toute la puissance que l'on pouvait trouver dans cette vallée, parce que dans le sol, on a trouvé un nouveau minerai qui est du somnium. Et ce somnium va permettre de construire des machines de guerre terribles et plein d'autres joyeusetés. Donc du coup, l'impératrice a envoyé des consortiums industriels en Amérique du Sud, et chaque joueur représente un consortium. Donc ils sont de la même nationalité, mais ils sont quelque part en compétition pour arriver à plaire à l'impératrice et à lui ramener ce qu'elle souhaite, c'est-à-dire à la base du somnium. Mais ça, ce n'est qu'une façon de gagner dans le jeu. La deuxième façon de gagner, c'est que les enfants de Viracocha, il y a très longtemps, sont morts très jeunes. Il a fait graver leur crâne avec des plans, donc il y a un plan qui est divisé entre les quatre crânes de ces quatre enfants. Donc une autre façon de gagner, d'arriver à réunir les quatre crânes des enfants de Viracocha pour avoir le plan, pour trouver le trésor de Viracocha et ramener ainsi des montagnes d'or à l'impératrice. Et enfin, la dernière solution, c'est de développer des technologies basées sur le somnium. Et en étant là-bas en Amérique du Sud, on va construire des bâtiments, développer des inventions, etc., qui sont représentées sous forme de cartes. Et lorsqu'on a assez de cartes, on totalise leur coût de construction. Et si ce coût atteint un certain montant, une certaine somme, alors on a aussi gagné la partie.
Et donc le matériel, on l'a dit, ce sont des tuiles hexagonales sur lesquelles on va placer des dés, on va activer ces tuiles-là avec des résultats de dés.
Donc on va lancer toujours 3 dés à la base. Ces dés vont permettre de remplir les conditions demandées par des tuiles, qui sont soit un nombre de 1 à 12, un doublon, une paire de 1 à 6, donc de 1, de 2, de 3, etc. Ou alors des suites de 3 dés, toutes les suites de 1 à 6 possibles. On lance les dés. Une fois qu'on peut utiliser les dés pour rentrer sur une tuile, on doit mettre en premier son camp de base. Il faut toujours le camp de base en jeu pour pouvoir jouer, sinon on passe son tour. C'est très rare, mais bon, ça peut arriver. Et ensuite, après, on peut faire rentrer d'autres pions adjacents à ceux qu'on a déjà dans le jeu. Mais une fois que les pions sont dans le jeu, ils bougent ensuite comme ils veulent. Ils se déplacent dans le jeu, d'autant de cases qu'ils veulent, on ne compte pas les cases pour se déplacer.
À chaque fois, en fonction du résultat du dé, quoi. Des dés, la combinaison qu'on va faire.
Voilà, il faut avoir les dés nécessaires pour se rendre sur une autre tuile, il faut répondre à la condition de la tuile pour pouvoir s'y rendre. Si elle est occupée, ce n'est pas grave, on remplit la condition de la tuile, on détruit celui qui l'occupait, parce qu'il ne s'est pas protégé. Et donc, il est détruit, il va au cimetière des machines, il faudra payer pour le récupérer. Si par contre, il a laissé un dé qu'il n'a donc pas utilisé pour autre chose, il a laissé un dé sur la tuile pour se protéger, il faut d'abord battre ce dé, ensuite il faut remplir la condition de la tuile, et seulement on peut éjecter l'adversaire et prendre sa place. Alors il y a des positions en montagne qui sont très compliquées parce que c'est des suites, c'est des doubles, etc. Et en plus en montagne, il n'y a que des zeppelins qui peuvent aller, du moins à la base. Donc déjà, il faut avoir un zeppelin en jeu, seul un zeppelin attaque un zeppelin, seul un zeppelin peut aller en montagne. Et quand ils sont en montagne, au tour suivant, ils peuvent débarquer du matériel qu'ils avaient dans les soutes. Ça se traduit par, on prend un autre pion qui est sur le plateau à soi, ou un autre pion qu'on a dans sa réserve, et c'est comme ça qu'on peut amener alors en montagne un camp de base, un explorateur pour prendre les crânes, ou une machine de forage pour aller extraire du somnium en montagne.
On le comprend suite à l'explication, c'est un jeu à tiroir, on va dire, il y a vraiment une succession de choses à faire. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça la ligne éditoriale actuelle de Sit Down, parce qu'on sait que les sociétés d'édition évoluent en fonction du marché?
On ne sait pas trop encore où on va, si ce n'est qu'on a une idée de base qui était vraiment de faire des jeux, je dis hardcore gamer, j'exagère un peu par rapport à Viracocha, mais tous nos jeux auront cette idée au niveau des visuels, du graphisme, on ne va pas faire des choses grand public, on va rester vraiment dans l'esprit Viracocha avec les thèmes qui vont changer, bien sûr. Voilà, donc c'est vraiment notre cible. Maintenant, au niveau mécanique, ça on ne sait pas, ça va dépendre. On a signé nos deux prochains jeux. Le prochain est un jeu de worker placement, par exemple. On active des actions, on résout les actions, et ça n'a plus rien à voir. On joue sur un plateau normal, ça n'a plus rien à voir avec Viracocha. Et celui encore après, c'est sur un plateau rond, on va forer la croûte terrestre. Ce sont des jeux qui n'ont rien à voir.
C'est trop tôt pour dire le nom des auteurs ?
Le nom des auteurs, pour le deuxième, je peux vous le dire. Sur le troisième, je ne le connais pas par cœur. Donc ça, je ne saurais pas vous le dire. Donc le deuxième, le jeu s'appelle Carnag. C'est un jeu qui a été créé par Pascal Cadot, illustré de nouveau par Yo. Ce sera la même chose que pour le premier Viracocha. Et le troisième jeu, on peut le dire aussi, c'est un jeu qui tourne déjà sur Vassal Forge, qui s'appelle Gaïa. Voilà, et là, on va forer la côte terrestre pour atteindre le centre. Il faut placer des mines, placer des foreuses, etc. Très intéressant aussi.
Ben, j'imagine.
Sinon, on va finir, forcément.
Évidemment. Donc, la logique de sit-down, c'est un jeu par an. Comme toute bonne société d'édition qui démarre, on va commencer calmement.
On essaye deux. Là, on est dans l'optique d'en faire deux. Le deuxième, Carnag, on aurait aimé l'avoir pour Cannes. Il va falloir aller vite. Je ne sais pas du tout si on va y arriver. Je pense qu'on sera après Cannes. Mais enfin bon, si c'est possible, on va voir à quel rythme tout le monde avance. Là, le jeu est vraiment fini au niveau des tests. On a commencé l'illustration de couverture. On va très vite enchaîner sur l'illustration du jeu. L'écriture des règles, parce que là, on a toujours les règles de l'auteur à la base. Donc, on doit peut-être un peu réécrire pour que ce soit vraiment dans l'esprit de ce qu'on a fait sur Viracocha, qui était, je vais dire, plus... plébiscité, mais on nous a remarqué, fait remarquer plusieurs fois que c'était correctement écrit, en tout cas, que c'était clair et limpide. Donc il faudrait qu'on amène les règles de Carnag dans le même esprit de clarté que Viracocha. Donc ça, c'est le travail qui reste à faire.
Bien, bah écoute, bonne vie à Sit Down, il n'y a plus qu'à s'asseoir. L'idée est chouette, le côté welcome on board est une excellente idée. On sent qu'il y a une réflexion et qu'il y a vraiment un testage du marché suite aux activités de publication du magazine, et c'est tant mieux, parce que ça veut dire qu'on est sérieux dès le départ, quoi. Donc bravo.
Ben, merci beaucoup, ça fait très plaisir.
Et à très bientôt.
À bon salon, à bientôt.
Vous avez aimé ce podcast, alors appuyez sur la touche trop cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast, alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.